suite à Toulouse.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec François Geffrier.
Et le journal de 6h30 de ce 26 avril.
Avec à la une, l'Ukraine veut contraindre les hommes à l'étranger de revenir au pays pour aller au front. Les cliniques privées se préparent à la grève avec le soutien des médecins libéraux. Et puis la flamme olympique quitte la Grèce, attendue dans 10 jours à Marseille.
Juste après ce journal, une invitée qui va vous intéresser, vous, mais aussi votre chien ou votre chat, puisqu'on va parler croquettes, pâtés et autres friandises pour animaux de compagnie. La directrice générale de Purina et donc comment j'ai réussi. Charles Bonner, l'Ukraine cherche des hommes pour faire la guerre.
La semaine dernière, l'âge de la mobilisation passait de 27 à 25 ans. Désormais, les passeports ne seront plus délivrés à l'étranger pour les 18-60 ans. La tranche d'âge de ceux qui peuvent se battre, les ambassades ne délivreront que des cartes d'identité aux hommes pour rentrer en Ukraine, Fabien Albert.
L'objectif est double, inciter les Ukrainiens de l'étranger à rentrer servir et dissuader ceux qui voudraient fuir le pays. Selon l'organisme Eurostat, 650 000 personnes en âge de combattre ont trouvé refuge en Europe, notamment en Pologne, où Varsovie se dit prête à collaborer avec Kiev pour forcer le retour des personnes concernées. Dans les faits, ce sera difficile, analyse Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris.
Les autorités polonaises risquent de se heurter au manque de volonté de venir rejoindre le combat en Ukraine. Ils peuvent aussi se heurter à des considérations d'expulsion et de mise à risque de l'état de droit. Ils peuvent aussi voir ces différents ressortissants trouver des échappatoires pour essayer de ne pas rejoindre le combat.
Une loi au contour flou qui ne permettra pas de mobiliser à grande échelle, ajoute Adrien Nonjon, chercheur doctorant à l'INALCO.
C'est purement symbolique en fait. Montrer que l'entièreté de la communauté est mobilisée autour de l'effort de guerre.
Un sujet très sensible en Ukraine entre les familles endeuillées, celles un peu plus à l'abri à l'ouest et la diaspora, et un problème politique pour son président.
La question de l'image que veut donner Volodymyr Zelensky, qui est celui d'une Ukraine démocratique, elle ne veut pas passer pour un État autoritaire qui mobiliserait sa jeunesse, elle envoyait se faire tuer pour rien.
L'Ukraine déjà confrontée à un grave problème démographique avant-guerre avec seulement 40 millions d'habitants, plus de 3 fois moins que la Russie.
Fabien Albert, au Proche-Orient, une délégation égyptienne est attendue en Israël aujourd'hui pour relancer les discussions sur un cessez-le-feu à Gaza, où plusieurs secteurs étaient bombardés hier, dont la ville de Rafah dans le sud, cible d'une prochaine opération terrestre de l'armée israélienne. Avec la guerre, entre 80 et 100 000 habitants de Gaza sont arrivés en Égypte.
En France, le ministre de l'Intérieur est favorable à un couvre-feu pour les mineurs.
C'est ce que dit Gérald Darmanin en déplacement dans l'Aveyron, à Rodez, où il a été interrogé sur une mesure mise en place à Béziers. Et prochainement à Nice, un couvre-feu pour les moins de 13 ans décidé par les maires.
Les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans. On parle d'enfants de moins de 13 ans. Je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse voir qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir. Mais les maires qui le font sont des gens tout à fait raisonnables. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si évidemment ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Gérald Darmanin sur France 3 Occitanie. Les cliniques privées en grève, un mouvement soutenu par la plupart des syndicats de médecins libéraux. Mouvement de colère sur le financement accordé par l'État. Bonjour Chloé Sénard.
Bonjour.
Les cliniques privées dénoncent un traitement de faveur inégal avec le public.
Hein. Raison pour laquelle les cliniques privées appellent à une suspension totale de leurs activités du 3 au 5 juin prochain. Et ça se prolongera même jusqu'au 9 juin pour les urgences et la permanence des soins. Une grève reconductible. À travers ce mouvement, les cliniques privées dénoncent l'augmentation de budget accordé au public, plus 4,3% contre une hausse de 0,3% pour le privé. Un écart qui s'explique par le financement des mesures de revalorisation salariale accordées en 2023 pour l'hôpital public. La Fédération de l'hospitalisation privée réclame donc une augmentation de 500 millions d'euros pour 2024 sur une enveloppe de 18 milliards. Ça permettrait d'atteindre la même hausse que l'hôpital public et de compenser l'inflation en augmentant les salaires. 40% des établissements privés sont aujourd'hui en perte, selon la Fédération. Si les cliniques baissent le rideau, le gouvernement verra que nous sommes essentiels, affirme son président.
Chloé Sénard, la loi existe depuis moins de 2 ans et elle a permis à 150 000 personnes de changer de nom, 3 fois plus qu'avant, un chiffre issu d'une étude de l'INSEE. Désormais, le changement de nom de famille nécessite qu'une simple démarche en mairie. La moitié des concernés a entre 18 et 29 ans. La dernière séance de la Convention citoyenne sur la fin de vie se tient aujourd'hui. Emmanuel Macron se rend pour l'occasion au Conseil économique, social et environnemental. Expliquer le cheminement qui a conduit à la définition d'un modèle français, alors que le projet de loi est actuellement examiné en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Apple est accusé d'exploiter illégalement des mines.
Accusation portée par la République démocratique du Congo contre Apple qui utiliserait pour ses iPhones viennent des minerais de mines congolaises où de nombreux droits humains ne sont pas respectés, accusant son voisin rwandais de complicité. Alors au-delà du conflit qui oppose ces deux pays, la violation des droits et les dégâts environnementaux sont une réalité dans l'extraction des mines, selon Madalena Neglia de la Fédération internationale pour les droits humains.
Il y a certaines entreprises qui sont de plus en plus conscientes des problèmes. Après, il y a toujours pour les entreprises un problème de compétitivité qui fait que, naturellement, elles vont essayer de réduire le coût. Mais les entreprises ont une obligation de vérification de leur chaîne d'approvisionnement, pas seulement à travers des audits, mais vraiment de manière plus profonde, surtout quand elles savent que les matériaux sont issus de zones de conflit. Mais il y a aussi une responsabilité plus générale des consommateurs et des gouvernements. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes problématiques, les mêmes violations liées à l'extraction du pétrole à travers l'extraction des matériaux essentiels de la transition énergétique hors du fossile.
Propos recueillis par Julie Drouin. La production mondiale de vin s'effondre, moins 10% en un an. C'est le niveau le plus bas depuis 1961. On y revient dans le journal de l'économie dans 10 minutes. Une consommation d'alcool et de cigarettes électroniques alarmante chez les 11-15 ans. Un rapport de l'OMS nous apprend qu'un collégien sur deux boit lors de soirées entre amis. Depuis le Covid, les industries les cibles sur les réseaux sociaux et adaptent leur offre. Emmanuel Ricard est le directeur scientifique de la Ligue contre le cancer.
On a un effet générationnel. Les jeunes ont l'air moins intéressés par la cigarette, qui est plutôt vécue comme un produit d'une autre génération. Pour nous, le problème va être plus aujourd'hui sur les nouveaux produits que veut développer l'industrie du tabac, type les petits sachets de nicotine, type le vapotage, de façon à la faire entrer dans la dépendance à la nicotine, qui est quand même un produit très addictif, et garder leur profit. Donc ça nécessitera aussi de développer des dispositions réglementaires et législatives pour lesquelles, pour l'instant, on a peu d'outils.
Emmanuel Ricard, joint par Rémi Pfister.
La flamme olympique va quitter la Grèce demain.
Elle va commencer la traversée de la Méditerranée à bord du Belém, un trois-mâts du 19e siècle, l'un des plus anciens d'Europe. Une traversée de 12 jours, sans escale, le long des îles grecques, des côtes italiennes, avant d'arriver à Marseille. Ce sera le 8 mai. Aymeric Gibert est le capitaine du bateau.
Le Belém se présentera seul face au vieux port, qui sera rempli, noir de monde. On passera le fort du Faro et là, notre destination finale, les derniers mètres après cette grande traversée portant la flamme, s'ouvriront devant lui. Et donc il y aura vraiment à bord, et je pense qu'à terre ça se ressentira, pour nous une émotion très forte sur ces derniers mètres qui vont nous amener face à la Canebière, au quai d'honneur. Et à partir de là, ben, on lèguera ce bien très précieux qui a été la flamme au premier relayeur qui lancera le relais de la flamme pour Paris 2024.
Le capitaine du Belém avec Servan de Pastre.
Dans le journal de 6h30 de Radio Classique, signé Charles Bonner. Merci Charles, on vous retrouve à 7h30. Faut-il s'angoisser du verdict ce soir des agences de notation sur la France ? C'est la une, journal de l'économie, dans 10 minutes.